franceinter.fr.
Tout chemin a son terme. Celui qui me fait à nouveau traverser la France, selon une diagonale, entre deux mers jusqu'à Menton, comme celui qui a commencé il y a près de 70 ans, dans une petite maison du bourg du Petit Précigny, derrière le lavoir. Ce terme est plus ou moins proche, il est inéluctable. Lorsqu'il est le but que l'on s'est fixé, il peut engendrer une certaine allégresse, souvent atténuée cependant par une impression d'incomplétude, de manque, puisqu'il existe alors un après. Qu'en est-il de la fin du chemin d'une vie, lui qui s'interrompt sans au-delà, qui débouche pour un agnostic sans état d'âme sur le néant ? Y a-t-il antinomie entre l'inéluctabilité d'une disparition définitive et un cheminement vers cette issue aussi allègre que celui qui me conduit au bout de mon parcours entre deux mers ? Non, m'apparaît-il. La jubilation que j'éprouve sur les chemins de France, malgré les protestations de mon corps, en témoigne. Certes, je ne marche pas vers la mort comme pour la défier, la conjurer de façon absurde. J'avance sur les routes et les sentiers de mon pays, et lorsque j'y parviens, communie avec ses habitants leurs déceptions et leurs espoirs.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Au printemps 2014, puis un an exactement plus tard, de mai à août 2015, Axel Kahn, généticien, enseignant, chercheur, essayiste et personnalité engagée dans la vie du pays, s'en est allé, sac au dos, à travers sa France. La première fois, ce fut sur la diagonale nord-est-sud-ouest, des Ardennes au Pays Basque, 1300 km en 72 étapes, 12 kilos sur le dos, un carnet de notes et un blog à remplir, et des rencontres prévues dans les villes et villages pour prendre le pouls du pays. La seconde fois, il partira de la pointe du Raz pour rallier, 3 mois plus tard, dans les mêmes conditions, Menton et la Méditerranée. Aujourd'hui, 2057 km plus tard et 43 000 mètres de dénivelé dans les jambes, 2 livres ont été écrits et des dizaines d'entretiens accordés aux médias. Mais dans la tête et le cœur du marcheur, attentif aux hommes comme aux paysages, que reste-t-il de cette aventure, autant mentale que physique ? Après « Penser en chemin », publié l'an dernier chez Stock et qui vient de sortir en poche, Axel Kahn donne, avec « Entre deux mers, voyage au bout de soi », une conclusion à la fois intime et politique, au sens premier du terme, à ce qui ne fut pas seulement un défi physique pour cet homme qui avait atteint 70 ans lors de son premier périple. Pour ce médecin et ce citoyen concerné par les débats actuels, confronter ses idéaux, ses souvenirs, ses doutes et ses certitudes à la réalité concrète, souvent triviale et désespérante, parfois miraculeusement réconfortante de ce qu'il convient d'appeler la France profonde, était un besoin. Comprendre cet effondrement psychique du pays, ce repli identitaire, ce rejet rageur des gouvernants qui mène de plus en plus d'électeurs à se détourner de la démocratie, de l'Europe, des affaires du pays. Et, en chemin, retrouver, sur les traces du petit garçon de la campagne qu'il fut, l'homme à qui son père, au seuil de sa mort, avait juste recommandé de devenir un adulte raisonnable et humain. Axel Kahn est ce soir l'invité de l'humeur vagabonde.
Bikes into the sky. now we call against the tide. Those distant days are flashing by.
Bonsoir Axel Kahn.
Bonsoir Kathleen Evin.
Traverser la France ainsi, de part en part, deux printemps-étés de suite, à 70 ans et plus, c'est pas simplement pour un marcheur, comme vous l'avez toujours été, une balade de plus. Est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a une part de défis personnels, mais de défis personnels intimes, comme s'il y avait quelque chose à formuler au fond du cerveau, une sorte de dialogue avec vous-même, peut-être ?
En réalité, il y a eu effectivement un défi pour ces deux parcours d'ordre légèrement différent. Lors du premier parcours, en 2013, le défi était de réaliser enfin ce projet que j'avais de mettre mes pas dans ceux de Jacques Lacarrière, dont le chemin faisant m'avait enthousiasmé, malgré les sollicitations d'un homme médiatique et ce que l'on attend de l'activité d'un ancien président d'université, d'un ancien généticien versé dans l'éthique, etc. J'avais été très frappé alors, il y a une trentaine d'années de cela, par l'injonction d'un très vieil homme que j'avais trouvé dans le puits de Sancy, alors qu'il avait été bloqué par le mauvais temps sur une crête exposée, par un temps très froid, et qui, alors que je m'étonnais de le trouver dans un tel endroit, un tel matin, m'avait dit, vous savez, monsieur, je n'ai pas de raison de me trouver à l'hospice à demander le bassin ou le pistolet, parce que vous savez, monsieur, chacun choisit sa vie. Donc le premier défi, en 2013, était de montrer que j'étais capable de choisir ma vie pour me montrer fidèle à ce vieux projet lorsque j'en aurais la possibilité de faire comme Jacques Lacarrière, traverser ce pays dans lequel je suis tombé et qui par conséquent est le mien. En 2014, J'avais réalisé le premier projet, j'avais choisi ma vie d'une certaine manière. L'universitaire s'était transformé en cheminot, comme disait Jacques Lacarrière, en vagabond, l'humeur vagabonde. En 2013, j'avais adoré naturellement ces beautés au contact desquelles j'avais éprouvé des joies ineffables. Et j'avais décidé de recommencer pour approfondir également la connaissance du pays. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que cette fois-ci, contrairement à la première fois pour un marcheur, comme vous l'avez dit, depuis qu'il est très jeune, cette fois-ci, il y aurait un très grand défi physique, un très grand défi personnel. Parce que le parcours était incroyablement plus dur, plus accidenté, il n'était pas balisé. Il m'est arrivé les aventures auxquelles on peut s'attendre lorsque l'on a trouvé son chemin et que les routes qui sont indiquées sur des cartes d'état-major, un GPS en l'occurrence, n'existent plus depuis bien longtemps. Et jusqu'à la veille, même le jour de mon arrivée, je n'étais pas sûr d'arriver. Par conséquent, il y a eu là les mêmes joies, les mêmes enthousiasmes, le même bonheur au contact de la beauté, le même intérêt au contact de la France. Mais il y a eu aussi un combat honorable contre la carcasse. Il y a eu ce désir de montrer que, après tout, puisque j'avais décidé de le faire, l'esprit serait plus fort que tout et que je le ferais.
Axel Kahn, on voit bien que vous êtes heureux d'avoir gagné ce pari contre vous-même ou avec vous-même. Mais il y a une chose aussi qui m'a interpellée, si je puis dire, c'est que ce n'était pas un défi solitaire. C'est-à-dire que vous avez embarqué beaucoup de suiveurs avec vous. Dans tous vos arrêts, il y avait des rencontres avec la presse, des rencontres avec les gens du coin, les décideurs, comme on dit. Il y avait un blog, il y avait beaucoup... Vous vouliez prendre à témoin le pays de cette traversée. Et là, ça prend un aspect nettement plus journalistique.
Pas exactement, en réalité. Lorsque j'ai commencé à élaborer mon projet... À la fin 2012, dès 2011, en fait, j'avais décidé de partir à la fin de mon mandat de président d'université en juillet 2011. Après, une campagne électorale au centre de Paris m'a empêché de partir en 2012 et donc je suis parti en 2013. Mais je m'étais trouvé face à une difficulté. Comme le but premier de mon voyage était de me confronter à la beauté des paysages, à la beauté du patrimoine, à la beauté des rencontres. Je ne voulais pas être accompagné de telle sorte que ma disponibilité soit totale avec ce que ou qui je rencontrerai. D'un autre côté, je suis extrêmement sévère envers la mode que je trouve nombriliste et égotiste, que l'on appelle la mode du développement personnel. Or, si je marchais de manière solitaire et j'étais sûr que j'éprouverais des joies incroyables, car je suis très sensible à la beauté, aux fleurs, aux monts, au lever, au coucher de soleil, etc. Qu'allais-je faire d'autre que de m'enrichir? Or, je rappelle souvent ce proverbe, parce que je crois qu'il est important, « Toute richesse qui n'est pas partagée ou donnée est perdue », c'est un proverbe gitan. Et cela est encore beaucoup plus vrai d'une richesse personnelle. Une richesse intérieure ou une richesse personnelle qui n'est pas le moyen d'échanger, profondément ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et donc, j'étais face à une contradiction. Je vais marcher seul et je veux marcher seul. Et donc, j'ai décidé d'essayer d'optimiser les conditions du partage et de l'échange. Donc effectivement, le partage par l'intermédiaire des réseaux sociaux que j'avais appris à maîtriser à l'occasion de ma campagne électorale contre François Fillon. Et d'autre part, les échanges et les échanges avec des gens dont il fallait qu'ils sachent que j'arrivais, car sans cela, un marcheur solitaire ne rencontre quasiment personne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai publié longtemps à l'avance mon itinéraire, le calendrier de cet itinéraire. Il fallait que je ne manque aucun des rendez-vous du début jusqu'à la fin. Et je dois dire, c'est presque miraculeux. En 2013 et en 2014, sur 2000 kilomètres les deux fois, 72 étapes, Je n'ai pas manqué un seul rendez-vous et je suis arrivé au dernier jour, la 72e journée de marche, où je l'avais dit à l'heure que j'avais dite. Et donc, j'ai pu voir des centaines de personnes. Mais c'était vraiment le projet.
Alors, Axel Kahn, surtout, je ne sais pas si c'était un projet que vous vouliez concrétiser, mais ce tableau de la France, à l'évidence, il ressemble énormément à ce qu'on en dit. D'abord, la coupure Nord-Sud, une France du Nord qui se désindustrialise et qui se désespère, une France du Sud qui a su retrouver des activités, souvent autour du régionalisme, de l'esprit local, des racines retrouvées. Et vous le racontez, ça revient souvent, cette désespérance et surtout cette colère contre le sommet. On écoute la lecture d'une page de votre livre.
C'est pendant 2 heures une avalanche de questions-réponses sur mes motivations, l'économie, le nucléaire, les plantes transgéniques et l'état de la France et des Français que j'ai rencontrés depuis mon départ. J'évoque alors mon sentiment d'être jusqu'ici passé par un pays en crise profonde. Les séquelles de désastres industriels et de crises itératives se succèdent depuis j'y vais. Je croise des populations assommées par les épreuves passées, accablées par la dureté du présent, désespérant de l'avenir. Un monde rural gagné lui aussi par la méfiance et le repli sur soi. J'observe un désintérêt affiché pour tout ce qui ne concerne pas le local et le quotidien strict. Un rejet du discours raisonnable des puissants perçu comme mensonger et mortifère. Plusieurs personnes avec qui j'ai pu échanger quelques mots, dans les auberges et estaminets où je me suis arrêté un instant, m'ont fait comprendre ou m'ont affirmé de manière explicite qu'ils ne lisaient aucun journal ou alors dans la presse locale les seules nouvelles de leur commune, au mieux du canton. Ces gens sont en majorité convaincus que le pire est certain, qu'un monde auquel ils sont attachés ou croient l'avoir été s'est effondré ou s'effondrera. Mes interlocuteurs, les gens eux-mêmes ou plus souvent les citoyens engagés que je rencontre aux étapes et qui tentent de réagir, me décrivent un sentiment de dépossession des habitants de petites cités ou de villages, de toute responsabilité dans la conduite de leurs affaires et l'écriture de leur avenir par les autres. Paris, l'État, Bruxelles, les étrangers, le monde. Il s'ensuit dans l'Est et en Champagne-Ardenne une déferlante des votes en faveur du Front National, prompte à vilipender les brigands qui dépouillent les Français de leurs valeurs, de leurs richesses et de la maîtrise de leur destin. Cette adhésion à un parti qui affiche son nationalisme reflète bien plus un mal-être et un pessimisme profond qu'une réelle fierté d'être français.
Axel Kahn, dans votre livre, il y a cette contradiction entre la France dont vous nous parlez, la France de votre enfance, la France qu'on aime, et puis cette France en douleur que vous avez traversée, cette France qui ne croit plus en elle, qui vit souvent dans la laideur, parce qu'il faut bien dire qu'autour des villes, c'est abominable, que la désindustrialisation, la désindustrialisation a laissé des friches, des ruines, et des gens blessés. Et cette blessure, vous la ressentez, j'allais dire, aussi fort que la douleur de votre corps, parce que vous racontez bien ce qui se passe. Il y a ces deux douleurs qui vont ensemble, et la douleur du pays. Et on ne peut pas s'en reposer.
Vous savez, surtout en 2013, beaucoup moins en 2014, mais mon parcours m'a conduit des Ardennes sans fonderie, à la Lorraine sans sidérurgie, à la région troyenne sans bonneterie, à la région tonnerroise sans électronique, au-dessus de la vallée de la Loire sans quasiment plus rien, et enfin au bassin minier de l'Aveyron sans ni mine ni sidérurgie. Partout où, au XIXe siècle, les populations avaient choisi un développement industriel, nous étions dans une situation totalement post-industrielle. Il ne restait en général rien et je voyais très peu de choses palpiter. Et donc, ce sentiment des gens que le pire était certain était celui qu'il leur était né, qui s'était imposé, à voir que génération après génération, les fabriques, les manufactures fermaient, que jadis, il y avait toujours des temps difficiles, mais l'emploi était à peu près assuré, et qu'aujourd'hui, on ne trouvera son salut que dans le traitement social de la crise, ou alors dans la fuite ailleurs. Et d'ailleurs, dans le Nord-Est, partout dans ces régions, les petites cités, jadis industrielles, ont perdu en moyenne les 2/3 des habitants. On peut faire l'inventaire, c'est à peu près cela. Et De fait, je me rappelle par exemple quand je suis arrivé dans l'Aveyron, à Decazeville, j'étais très profondément atteint par cela. Il y a la répétition de cette douleur à créer un état d'hypersensibilité presque intolérable qui m'a amené même sans doute à une crispation qui a dépassé ce que je voulais faire. Donc ça c'est vrai, cela existe, et il faut dire, car tout le monde ne le voit pas comme cela, il faut dire que la première cause du drame de la France, c'est parce qu'on a laissé faire et parce que également on l'a voulu, c'est un effondrement de la France industrielle, plus important que n'ont connu tous les autres pays d'Europe pratiquement. Aujourd'hui, ça sont des statistiques, mais aujourd'hui, la part du produit intérieur brut venant de l'activité manufacturière est descendue en dessous de 9%. On est derrière l'Italie, derrière l'Espagne, derrière pratiquement tous les autres pays, même derrière l'Angleterre qui l'a fait de manière volontaire, et évidemment, l'Allemagne est à 22%, plus du double de nous. Et ça, c'est un problème et une difficulté absolument majeure. On le ressent. Et la difficulté de vivre que l'on perçoit n'est pas du tout la même dans ces zones post-industrielles et dans les zones rurales où il y a une dépopulation, une désertification, mais non pas une paupérisation. L'agriculture française reste une agriculture active, productrice de richesses, mais évidemment, la productivité du travail agricole a été multipliée par 10 à 20. Donc il faut 10 à 20 fois moins de bras et de personnes pour travailler de l'agriculture, ce qui entraîne des villages jadis actifs à n'avoir plus assez, en tout cas d'agriculteurs, pour vivre uniquement de l'agriculture. C'est un tout autre phénomène, et le ressenti du marcheur qui est amoureux de son pays et qui le voit souffrir, qui souffre avec lui, est différent dans les régions qui ont connu puis ne connaissent plus le développement industriel et dans les régions qui sont des régions qui ont toujours été rurales.
Et vous avez constaté, Axel Kahn, et ça c'est un leitmotiv très, très frappant dans vos deux livres, cette colère qui s'est installée sur la déception envers les politiques. Les gens se détournent, on le sent bien d'ailleurs dans les votes, mais tous les discours sont très argumentés. À chaque fois que vous avez rencontré des gens là où vous arrêtiez, ils savent très bien pourquoi ils ne veulent plus faire confiance. Allez, ça se traduit pas. Ils ne lisent plus la presse nationale, ils n'écoutent plus les discours politiques, ils ne croient plus en rien, ils ne votent plus. Et ça, c'est vraiment un constat quasi général que vous avez fait.
Je crois que nos élites de gouvernement, les partis de gouvernement, on peut les comprendre, mais néanmoins, ont une très lourde responsabilité. Pourquoi ? C'est que personne ne peut nier que les contraintes objectives qui pèsent sur la conduite d'un État comme la France au sein de l'Union européenne sont des contraintes considérables. Tous nos gouvernants sont obsédés par ces contraintes qui sont réelles, elles ne sont pas imaginaires. Et de fait, dans leur esprit, moi je les connais bien, je discute avec eux, dans leur esprit, ils ont beaucoup de difficultés à passer au-dessus de la gestion quotidienne de ces difficultés pour imaginer un avenir, pas les lendemains qui chantent, mais un avenir quand même désirable, difficile à bâtir, mais qu'il vaut la peine d'essayer de bâtir tant il est désirable. Et comme eux-mêmes ne le pensent pas, ne le rêvent pas, alors ils sont incapables de le présenter aux électeurs. Et la raison majeure, puisqu'on en a parlé, de ce détournement des votes en nombre vers le parti de Madame Marine Le Pen, est que dans cet état d'esprit où on considère que le pire est certain et que hier c'était beaucoup mieux, évidemment, il y a un intérêt pour un discours qui, au sens étymologique du terme, est réactionnaire, puisqu'il propose de revenir à ce qui était dans le temps, ce qui est sans doute impossible, mais peu importe. En réalité, il faudrait, pour que la démocratie vraiment joue, qu'il y ait une vraie possibilité de comparaison. Les uns proposant un avenir dans lequel ça vaudrait vraiment la peine de s'engager, et les autres proposant un retour au passé. Là, on en discuterait. C'est pas ça. Il y a des gens qui proposent un retour au passé qui, évidemment, n'y ramèneraient pas. Et en face, il y a des gens qui
totalement tétanisés par la dure réalité des choses, ne proposent réellement rien de désirable. Souvent, on me dit, mais on ne fait pas de la politique en rêvant. C'est vrai, mais on ne fait pas de la politique non plus sans rêver. S'il n'y a pas une dimension du rêve, de la passion, de l'engagement dans la politique, alors bien évidemment, les électrices et les électeurs font et feront sécession avec cette absence de vision de l'avenir.
Taïté, ça et là. T'as itinéré, je suis ça. Que tu t'adores là-haut. Brigue l'or et le fer ailleurs. T'as été à ça de moi. T'as ôté tous mes totems. Ça ne me surprend pas. Mais ça ne prend pas le pas sur nos vieilles lunes, sur le pas que j'espère faire. Retrouver mes gestes, frère. Faire retrouver le geste et le fil. Le fil des philharmonies.
Comme partout depuis la Drôme, la montée débute par des ravinements marneux, arborés en nubac et d'une totale aridité ici, d'aspect lunaire. Au premier contrefort rocheux, je débouche en bas d'un couloir raide, mais praticable à l'aide des mains, ce qui est rien moins qu'évident avec mon épaule délabrée. Je m'y engage pourtant pour me retrouver bloqué 50 mètres plus haut par des escarpements où la progression m'est interdite. Je redescends, ce qui est bien entendu plus périlleux que monter. J'hésite, je cherche, je m'engage dans une autre voie sous un soleil brûlant. Ma vaillance à grimper avec obstination dans la rocaille et les éboulis est récompensée. Elle me fait atteindre d'un seul coup, sans crier gare, l'idyllique plateau de Dina au-delà de 1000 mètres. Là, pousse une herbe dense que les plumets de pollen font apparaître presque blanche. Des bergeries, isolées ou par groupes de 3 ou 4, sont visibles un peu partout, ruinées dans la pente, rénovées et pimpantes sur le plateau. Au nord comme au sud, la montagne est constellée de petites chapelles comme celle d'hier dédiée à Saint Saturnin. Certaines sont encore l'objet de la dévotion des fidèles et bien entretenues. Lorsqu'il est possible d'en voir l'intérieur, voire d'y pénétrer, on est ému de la fraîcheur et de la grâce de fresques qui témoignent de la foi naïve des bergers et des villageois qui les ont édifiées et décorées. Saint-Junien, blanche et pimpante, est érigé face à la vallée sur une pelouse épaisse, face à un vieil arbre mort statufié par un socle en pierre. Le contraste entre le paradisiaque plateau de Dina et le sévère flanc nord de la vallée du Var évoque ces terres oubliées, sorte de paradis terrestre protégé par leur isolement et que des explorateurs intrépides découvrent dans des romans d'aventure, au cœur de montagnes hostiles, voire dans les entrailles de la Terre.
Axel Kahn, on vient d'entendre la lecture d'une page de votre livre, parce qu'il y a beaucoup d'émerveillement devant la beauté aussi que vous avez croisée, Dieu merci, il n'y avait pas que du désespoir, même si cette beauté, elle se trouve plus fréquemment, d'abord à l'écart des grandes villes, et puis plus on descend vers le sud. Là, vous êtes quasiment à l'arrivée de votre voyage, de votre deuxième voyage, et il y a eu aussi... De la douleur physique, mais même un peu de folie, j'allais dire, parce que vous vous êtes fait vraiment des blessures, vous vous êtes abîmé l'épaule, abîmé le genou, et il n'y avait pas jamais la tentation d'arrêter.
Tout d'abord, une observation. Je n'opposerai pas un nord qui ne serait pas beau et un sud qui serait beau. La région des Ardennes, si éprouvée, est admirablement belle, avec ces méandres de la Meuse qui semblent couper à l'emporte-pièce ce haut plateau à 500 mètres. Cette année, la Bretagne est inouïe. J'ai fait un hit-parade des beautés en chemin. Dans ce hit-parade, il y a deux de mes préférences qui sont en Bretagne. Évidemment, le Cap Sizun, la Pointe du Raz, et puis la forêt de Guerlédan, etc., etc. Donc, il y a des beautés dans toute la France. C'est vrai que lorsque l'on est dans des régions où les friches industrielles sont là comme des fantômes morts, on a l'impression, effectivement, la notion du territoire qui a péri. Et la mort du territoire et donc de l'espoir est quelque chose qui vous saisit à la gorge. Mais la beauté est toujours à côté. Ce que je dis, c'est que, évidemment, appréhender la beauté et s'en réjouir ne peut jamais faire oublier la dureté des temps. Mais ça n'est jamais inutile non plus. Et donc, même dans ces territoires qui sont éprouvés, j'ai le même langage en disant, il faut qu'on étudie ce qui vous est arrivé, mais également que vous soyez capable de reconnaître que nous avons en partage votre territoire, par ailleurs, qui est incroyablement beau. Alors, pour ce qui est de cette épreuve, de ces imprudences, oui, cette année, vous avez rappelé tout à l'heure que j'ai grimpé de manière cumulée près de 44 000 mètres, ce qui est absolument considérable, et j'en ai descendu autant. Et comme je n'étais pas sur des chemins balisés, je l'ai fait dans des conditions qui étaient en réalité dangereuses, qui étaient très imprudentes, parce que l'on savait où j'arrivais le soir et d'où je partais par conséquent, mais personne ne savait, pas même moi, où je passerais dans la journée. Ça dépendait du temps, de l'ensoleillement, de mon GPS, et souvent je me perdais de toute façon. Et donc, si jamais il m'arrivait quelque chose, or il m'est arrivé des choses qui m'empêchaient de continuer, on aurait mis beaucoup de temps. Je n'avais pas de balise Argos, on aurait mis beaucoup de temps à me retrouver. Mais cela ne m'a jamais arrêté au point que cela forme comme un écran entre la joie de la beauté et moi. L'évidence de la beauté a toujours été plus forte, même dans les moments de fatigue, d'inquiétude. Alors, oui, c'est vrai, je me suis luxé l'épaule. Oui, c'est vrai, il y a des tendons importants de l'épaule qui se sont rompus. Oui, c'est vrai, une semaine après mon arrivée, je marchais avec deux cannes anglaises car j'étais totalement incapable de poser un pied par terre. Mais, voyez, j'ai une juvénilité qui se manifeste encore et j'ai totalement récupéré. Donc, j'avais raison d'être optimiste, après tout.
Axel Kahn, ce qu'on remarque aussi dans votre livre, c'est que, j'allais dire, les poches de bonheur, c'est peut-être un grand mot, mais disons, de là où vous avez rencontré d'abord une population qui revenait s'installer, des gens qui venaient, qui étaient heureux et qui expliquaient pourquoi ils étaient heureux sans gagner énormément d'argent, mais en vivant dans un bel endroit et en faisant un autre métier que celui pour lequel ils avaient cru passer leur vie. En fait, il y a dans ce pays une sorte de retour à la terre, si l'on peut dire, des couples, des jeunes qui reviennent et qui essayent de fabriquer du beau, du simple, du bon, modestement, et ça marche.
Ça, c'est un phénomène très important dont on ne prend pas assez conscience. Il y a, en réalité, même si nous avons parlé de désertification rurale, le phénomène le plus important sur toute la France, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, est une revitalisation rurale.
La population rurale, je ne parle pas du tout de la population périurbaine, la vraie population rurale, a gagné depuis le début du siècle de 15 à 20, 25% de population. Les communes ont cessé de se dépeupler dans les années 90, en règle générale, et aujourd'hui se repeuplent. Et surtout, à côté des agriculteurs qui continuent de produire de la richesse, mais qui ne sont plus très nombreux, il y a la pointe d'une néo-ruralité, et aussi d'anciens enfants du pays, femmes et hommes, qui sont partis travailler quand ils étaient jeunes, quand ils avaient 18-20 ans, ou après le régiment, comme on dit, car il n'y avait pas assez de travail pour tous les jeunes, et qui reviennent pas simplement à la retraite, comme ils le font depuis très longtemps, mais qui reviennent en petit nombre pour travailler, produire, entreprendre au pays. Soit alors dans des nouvelles technologies, parce qu'il est possible de produire et de travailler en ligne avec l'informatique, ou alors dans des métiers traditionnels. C'est l'agneau du Quercy ou l'agneau de Sisteron. C'est l'agriculture en général. C'est le safran ou la truffe. C'est le fromage de chèvre. C'est les brasseries artisanales de bière, les cidreries un peu partout en Bretagne, etc., etc. Quand vous arrivez dans les pays, vous voyez, après un passage extrêmement difficile, vous voyez en réalité une vie qui palpite. Alors évidemment, c'est pas encore quelque chose d'extraordinaire. Et le phénomène est que le cumul du prix de l'immobilier dans les zones urbaines, la vie de plus en plus difficile, l'air du temps, vous l'avez dit, la volonté d'un retour à des racines des fois fantasmées. Mais on a tous des racines rurales, campagnardes. Et il y a un nombre croissant de personnes qui, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs enfants, qui veulent que leurs enfants vivent dans ces conditions-là. Et ce phénomène, il est important. Demain, il faudra que les politiques prennent en compte cela. Le territoire n'est plus un territoire qui comportera uniquement les très grands centres urbains et puis des grands déserts. C'est un territoire qui sera maillé comme cela. Et donc là, c'est un élément important d'optimisme. Entre les régions qui résistent mieux et cela, c'est une des raisons pour lesquelles, finalement, j'ai un optimisme à vous proposer pour ce pays qui est le nôtre.
Il était temps d'en avoir un peu, d'autant plus, Axel Kahn, que ces retours au pays que vous décrivez dans vos deux livres, Pensée en chemin et Entre deux mers, ils s'agrègent souvent autour d'une pensée que les politiques ne nous vendent guère, qui est une pensée de croissance raisonnée, de croissance modérée, écologique, biologique. Alors je vous présente Rémi Douatte qui est venu nous retrouver. Bonsoir Rémi.
Bonsoir.
Vous parliez de la Bretagne tout à l'heure en disant, et je vous comprends que ça a été un des enchantements de votre voyage, en Bretagne, sur une île, Rémi a rencontré des hommes, des femmes, qui ont appris à vivre au pays et sans produire du tout de déchets, de gaz à effet de serre, et ça marche.
Oui, tout à fait. Je suis allé sur l'île de Kéménès. On est en mer d'Iroise, donc on n'est pas très loin de Brest, rencontrer David, Soizic et leurs deux enfants. Ils vivent seuls sur l'île, mais sont tous sauf des Robinson, car Kéménès est devenu un laboratoire de technologie verte, avec une feuille de route très précise, préserver la biodiversité en exploitant les ressources locales. David et Soizic cultivent donc les pommes de terre. Elles sont très bonnes, je les ai goûtées plusieurs fois. Et leur histoire étonnante montre à quel point la sauvegarde d'un territoire demande de l'énergie, du savoir-faire, mais aussi de la volonté politique.
Donc là, on arrive à Kéménès, en fait. Donc c'est une petite île qui fait 1,5 km de long sur 400 mètres au plus large. Et donc là, on va arriver à la cale, côté nord-est.
Ça va, Gaston?
Oh, ouais. Ça, c'est notre gros cochon.
Hein?
Allez, bonne sieste, Gaston.
Le conservatoire du littoral a racheté l'île de Kéménès. Ils se sont aperçus qu'il y avait un patrimoine bâti qui était très intéressant, que l'environnement aussi méritait que cette île soit entretenue. En fait, ils se sont dit, bah voilà, mais pourquoi on n'installerait pas quelqu'un sur cette île, d'où l'idée de ce projet de relancer une exploitation agricole. Et le choix a été fait de développer un système éolien plus photovoltaïque pour rendre l'île complètement autonome, parce que l'île n'a jamais connu l'électricité. Il n'y a pas de câble sous-marin qui nous apporte l'électricité du continent, donc il a fallu capter l'énergie pour pouvoir la stocker et la distribuer au niveau de la ferme. Donc on a environ 65 mètres carrés de panneaux photovoltaïque plus une éolienne et qui charge un pack de batterie. Et avec ce système là en fait on a vraiment tout le confort électrique dont on a besoin, frigo, congélateur, enfin cafetière, j'en passe et des meilleures, machine à laver, sèche-linge, lave-linge, et donc avec tout ça on est complètement autonome. Mais l'eau est un gros problème en Bretagne, notamment sur les îles, c'est que la ressource en eau est très 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 limitée. Donc on récupère l'eau des toitures que l'on stocke, on a environ 20-25 mètres cubes de stockage. Cette eau est stockée dans des citernes et après elle est traitée, donc il y a un filtre à UV qui permet de rendre de cette eau potable. Mais on est juste là pour montrer qu'effectivement on peut vivre bien en consommant raisonnablement et surtout on a adaptant sa consommation à ses besoins et surtout en adaptant la consommation à la production d'énergie. Il y a forcément une dimension expérimentale. Et c'est vrai que, sans pour autant être un exemple, on n'est pas là pour ça, mais au moins ça sert de vitrine et de dire voilà, c'est possible, ça fonctionne. Donc effectivement, quand les moyens et quand les conditions sont réunies, il y a possibilité de dupliquer ces systèmes-là ailleurs, sur des îles un peu plus grandes. Et c'est ce que l'île de Saint notamment, l'île d'Ouessant et Molène aussi vont probablement mettre en place dans les années à venir, effectivement, de limiter la part du pétrole dans l'électricité, puisque là-bas, ce sont des groupes électrogènes qui fournissent l'électricité, et de faire une transition progressive vers plus d'énergie renouvelable, de l'hydrolien, du photovoltaïque ou de l'éolien. Alors là, en fait, on est dans l'une des anciennes écuries de l'île. On a stocké à même le sol la fin de la récolte. Et donc là, le jeu, c'est tout simple, c'est qu'on va remplir des caisses pour aller les transférer dans l'autre remise. Et donc tout ça se fait à la main, puisqu'en fait, les portes ne sont pas assez larges pour passer un tracteur ou quoi que ce soit. Donc on fait tout manuellement. C'est complètement anachronique, mais c'est un mode de fonctionnement qui, à notre échelle à nous, convient parfaitement. C'est-à-dire qu'on est sur une petite exploitation. Le milieu, enfin l'écologie de l'île fait qu'on ne peut pas de toute façon avoir des gros engins. Enfin, ça serait très compliqué. Donc en fait, c'est une exploitation à taille humaine. Et effectivement, on utilise des choses qui ne sont plus utilisées de nos jours depuis... c'est plus utilisé depuis les années 70, 80 même. Mais voilà, donc nous, on y trouve notre équilibre, et que ce soit économique et même nous au niveau du travail. Donc là, c'est parfait. En fait, ce qui est important de préserver, c'est pas forcément une petite bête ou une plantule en particulier. Ce qui est important à préserver, c'est un tout. C'est un tout entre cette activité humaine et ces petites bêtes qui nous entourent. Si demain on arrête de travailler, d'entretenir l'île par le pâturage, par la culture des pommes de terre, tout cela, en fait, l'île se ferme, c'est-à-dire qu'il y a une végétation qui va prendre le dessus et en fait on aura moins de biodiversité. L'intérêt, c'est de maintenir une activité humaine, c'est que l'homme fait partie du milieu, quelque part, ça nous paraît presque évident. Alors je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facilement adaptable partout, hein, il y a quand même quelques contraintes, mais voilà, c'est des choses qu'on a découvertes ici et que si l'on avait à retourner sur le continent, on essaierait de mettre en place chez nous. Il faut avoir une certaine faculté d'adaptation, et voilà, il ne faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot non plus, mais après, est-ce que c'est à la portée de tous? Oui. À partir du moment où on se sent bien là où on vit, après le reste coule de source.
Merci beaucoup Rémi Douac pour ce balade en mer. Axel Kahn, on entendait un discours qu'on entend dans vos livres aussi. Là où ça marche, c'est aussi des gens qui tout d'un coup se sont pris en main, c'est-à-dire que c'est le bon côté du désarroi politique, j'allais dire, c'est qu'on a cessé d'attendre que ça vienne du haut et que les gens se prennent en main et tout d'un coup disent moi au moins à ma petite échelle, dans mon canton, on va se débrouiller pour que ça marche. Et vous racontez beaucoup d'exemples comme ça qui marchent.
En fait, j'ai été extrêmement séduit, je dois dire,
par la grande réactivité des agriculteurs de ce pays. Alors évidemment, les modes de production vont être plus ou moins sympathiques. Là où la terre permet des rendements extrêmement élevés, alors ils font des rendements extrêmement élevés, mais c'est aussi important pour des raisons et économiques et également de nourriture du monde. Et puis ailleurs, c'est la typicité de la production, le caractère écologique. Et en effet, j'ai rencontré sur les pentes du Mézinc, dans la Drôme, dans les Alpes du Sud, sur les hauts plateaux de l'Ardèche, des gens qui vivaient ce type d'agriculture, privilégiant la réputation du lieu, la typicité du produit, évidemment un produit relativement et un peu plus onéreux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là vivaient bien et faisaient vivre une famille. Quelqu'un qui le veut et qui fait une étude raisonnable peut vivre, faire vivre une famille et vivre bien en s'engageant dans ces types de production. Fromagère, je l'ai dit, de bière, d'élevage. Sur le plateau de l'Ardèche, dans la Drôme et l'Ardèche, ce sont deux départements qui ont tout focalisé, car effectivement les terres ne sont pas très fertiles, tout focalisé sur la culture bio. Mais j'ai vu une famille qui vraiment semblait avoir une certaine aisance, qui avec 1 ou 2 hectares de légumes bio, plus un relais auberge, vivait bien. J'ai vu une famille avec un monsieur du Lot qui était venu sur les pentes du Mézinc à près de 1200 mètres, 1180 mètres d'altitude, pour être dans un territoire n'ayant jamais vu d'engrais, de produits chimiques, et qui a commencé là à semer son froment, à le récolter, à faire son pain, construire son four, construire également son moulin, et qui, du début jusqu'à la fin, de la culture à la commercialisation, toute sa vie, a vécu, lui, sa famille, les enfants ont fait des études et a vécu bien. Il faut dire cela, c'est possible. C'est possible, ça n'est pas une vie misérable, ça n'est pas une vie d'abandon. Le mouvement qui pousse aujourd'hui des citadins à aller vers la campagne lorsqu'ils le peuvent, lorsqu'ils peuvent y travailler, c'est également le mouvement qui pousse ces mêmes citadins quand ils restent en ville à avoir un attrait croissant pour ce type de produit-là. Donc, il faut vraiment le dire. Alors, évidemment, on ne gagne pas sa vie en ne faisant rien. Il y a du travail. Mais alors, quelle joie de travailler avec ces matins lumineux, avec ces couchers de soleil de gloire, avec ces vues sur la vallée dont monte une légère brume. Vous vous rendez compte de ces vies-là quand même ?
Axel Kahn, je sais bien que à l'arrivée de ces deux expériences étonnantes, bon, il y a 2 livres qui existent, qui n'est pas rien. Et vous-même, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous en avez rapporté ?
Je savais que j'étais sensible réellement à la beauté. Ce que j'ai appris, peut-être de plus bouleversant, c'est le prix absolument extraordinaire, la passion que j'ai ressentie pour un exercice d'une liberté complète, totale. J'ai eu une carrière avec pas mal de postes de responsabilité assez jeune. Et donc, j'ai jamais été libre, parce que quand on est responsable de quelque chose, on fait ce pourquoi on est responsable et on fait pas ce qu'on veut faire. Et puis là, je me suis trouvé à cheminer cette tumeur vagabonde, moi aussi. Personne ne pouvait se trouver mieux ou moins bien de ce que mon humeur vagabonde me pousserait à faire. Là où j'allais m'arrêter, là où j'allais manger, ce que j'allais regarder, les petites fleurs devant lesquelles j'allais m'agenouiller pendant parfois une demi-heure, que sais-je. Rien. Et j'ai trouvé que cette liberté-là, elle était extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est aussi l'un des éléments qui pousse des gens à revenir vivre au contact de ces lieux où cette liberté peut s'exercer, et également qui peuvent être attirés, je leur conseille, ils devraient être plus attirés par ces métiers, où il y a la contrainte naturellement d'un métier qui doit être réalisé de telle sorte qu'il permette de vivre. Mais tout de même dans un espace d'absence de contrainte qui n'a pas d'équivalent dans la plupart des autres professions.
Merci beaucoup Axel Kahn d'être venu nous parler avec votre fougue habituelle de ces balades périlleuses à travers la France. Il en reste deux livres, Pensées en chemin, qui vient de sortir en édition de poche, et le dernier, Entre deux mers, aux éditions Scott Stock. Merci à vous.
Merci beaucoup Catherine.
Des champs. Une jolie fermière me dit où vas-tu, monte derrière avec les laitues, les pieds dans le ciel, chez des hirondelles, nous filons doux et la route est à nous. Me dit la vie est belle à l'école buissonnière, nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Les prés sont verts, quel âge as-tu toi? De pain. La campagne se prête à tout, mais la ville pas du tout. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la
Voilà, l'humeur vagabonde s'en va avec Thomas Fersen, mais restez bien à l'écoute de France Inter puisque vous avez rendez-vous avec notre amie Julia Foïs.
Bonsoir
Julia, comment allez-vous?
Ah bah très bien, ce soir comment vous dire, on est entre littérature et canidée.
Et canidée,
oui,
tiens
oui,
donc
oui, oui, et le pire c'est que les deux ont un rapport.
Ah bah écoutez, alors vous me donnez vraiment envie de vous écouter. Bonne émission Julia.
Merci Kathleen, à demain.